Bonjour à tous. Commençons ce message dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps que nous pouvons passer dans l'écoute, la méditation de ta prière, de ta parole. Merci pour cette parole qui est, comme l'a dit notre frère au début de ce culte, notre nourriture, quelque chose d'important dans notre vie de chrétien. Je te prie de nous diriger, Seigneur, par ton esprit, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions la recevoir efficacement, et que ce soit une parole aussi qui soit une parole d'encouragement pour nous, qui nous exhorte à avancer davantage dans ton service, à avancer davantage dans la sanctification. Merci, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Bien, alors ce matin, je vous propose de lire un passage qui se trouve dans le livre de Jérémie. Je crois que tout à l'heure, notre frère Paul nous a fait allusion à un verset qui se trouve dans Jérémie, et notamment c'est dans Jérémie 15, hein, verset 14. Enfin. Mais en tout cas, ce matin, nous allons lire le début de ce livre de Jérémie, donc le chapitre 1 et les versets 4 à 19. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 19. L'appel de Jérémie, ça c'est le titre que j'ai. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. »« Tu as bien vu, » dit l'Éternel. « Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. » Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. « Que vois-tu encore ?» Je répondis, « Je vois un chaudron en train de bouillir qui se trouve au nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays, car je vais appeler les peuples, tous les peuples des royaumes du nord. » L'Éternel le déclare. « Ils viendront, et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays, pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de se prosterner devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toi donc, mets ta ceinture, et lève-toi. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze, face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te protégerai. Voilà, jusque-là, notre lecture de ce matin. Alors, la scène se passe dans un village qui s'appelle Anatot, à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Ça se passe, semble-t-il, au 7e siècle avant Jésus-Christ, vers l'année 627 à peu près. Et nous sommes dans un contexte de corruption, d'idolâtrie du peuple, le peuple d'Israël. Et ce peuple s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et c'est dans cette situation que Dieu va visiter Jérémie. Il dit même qu'il l'avait choisi avant même sa naissance pour être son prophète, pour être son porte-parole auprès du peuple. Et son message, en tout cas la mission de Jérémie, c'était donc de détruire, de ruiner, mais ensuite de replanter. Nous l'avons lu tout à l'heure. Détruire parce qu'à cause de son idolâtrie, à cause de son infidélité, Dieu avait déjà décidé de punir son peuple en envoyant les Babyloniens pour détruire ce régime qui est corrompu, en envoyant les Babyloniens pour ruiner le pays, pour arracher son peuple à sa terre et le déporter à Babylone. Ça, c'était déjà un décret que Dieu avait fait suite à l'idolâtrie. Et le peuple a tout simplement dépassé les bornes. Mais il aura aussi la mission de replanter, parce que ceux qui seront restés fidèles à Dieu, parce qu'il y en a eu, bien sûr, ils seront restaurés, ils reviendront dans le pays pour un nouveau départ, et Dieu va contracter une nouvelle alliance avec eux. Donc Dieu visite Jérémie, et après quelques hésitations, Jérémie sent que finalement on ne peut pas résister à l'appel de Dieu. Et il va s'engager au service de l'Éternel pour être prophète, même s'il sait que son ministère ne sera pas facile. Alors, la question c'est, en quoi est-ce que l'appel, la vocation de Jérémie peut-il nous intéresser ce matin? Il me semble quand même que cet appel nous concerne en notre qualité de chrétien. Il nous donne des raisons de considérer sérieusement notre engagement envers le Seigneur. Où est-ce que j'en suis? Quel est mon degré d'engagement avec Dieu aujourd'hui? Notre engagement dans le cadre de notre vie chrétienne personnelle, de tous les jours bien sûr, mais aussi notre engagement dans notre vie d'église. Alors du coup, je propose de donner quelques raisons, on va développer quelques points, quelques raisons pour lesquelles tout chrétien devrait être prêt à s'engager, si ce n'est pas encore fait, en tout cas à s'engager davantage, à entendre cet appel de Dieu et à ne pas hésiter à aller s'engager avec le Seigneur. La première chose, pourquoi nous engager avec Dieu donc, c'est que Dieu nous appelle. Vous savez, par définition, le chrétien a une mission générale, une vocation générale. Il est mandaté par Dieu pour faire de toutes les nations des disciples. Ça, peut-être que vous le savez, ce passage dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qui dit, allez, je vous envoie faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un passage aussi dans 1 Pierre 2,9 qui dit qu'on est chrétien afin d'annoncer les vertus de notre Seigneur qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Donc ça, c'est notre mission générale. Mais en corollaire de cette mission générale, si nous sommes chrétiens, eh bien Dieu nous a aussi préparé une mission particulière. Dieu a conçu un plan personnalisé pour nous, et ça depuis toute éternité. Pour Jérémie, ce plan c'était de devenir prophète de Dieu auprès des nations. Il a dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, avant ta naissance je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. L'apôtre Paul, par exemple, il était destiné plus particulièrement à être apôtre auprès des païens. Ils ont une mission particulière. Alors, si la question de la mission, on va dire, générale est claire, la question c'est de savoir aujourd'hui à quoi Dieu alors nous appelle-t-il d'une manière particulière. Je ne peux pas le savoir en ce qui vous concerne. Mais nous avons un rôle particulier dans le corps de Christ. Alors peut-être que nous connaissons ce rôle, et que nous sommes en train de l'accomplir, que nous connaissons cette mission. Peut-être aussi que nous ne la connaissons pas de manière claire et que nous aimerions bien la connaître. Nous aimerions bien avoir la confirmation de ce qu'on pense pouvoir faire pour le Seigneur. Et dans ce cas-là, mettons-nous à l'écoute de Dieu. Il nous montrera ce qu'il attend de nous. Il nous montrera de diverses façons si vraiment nous demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de particulier pour toi dans ma vie de chrétien, dans ma vie ici dans l'Église. Enfin, peut-être que nous connaissons notre appel, mais que nous hésitons à l'accomplir. Parce qu'il ne répond pas forcément à nos projets personnels de vie ou professionnels. Il ne répond pas forcément à notre propre logique des choses. Mais vous savez que Dieu, il a ceci de particulier. Il renverse souvent les logiques humaines. Dieu bouleverse souvent les projets humains. Dans le livre des Proverbes, il y a ce passage qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Proverbe 19, 21. Et Dieu, il a un plan pour nous. Il appelle chacun d'entre nous à nous inscrire dans ce plan. Et il le fait souvent de manière improbable. Je m'explique. Quand Jérémie a été visité par Dieu. Il m'arrive souvent ces derniers temps de mélanger un peu les pinceaux. Quelques-uns, notamment certains jeunes, le savent. Quand Jérémie est visité par Dieu, Jérémie est un jeune homme. Les commentateurs disent même que c'est un adolescent. Et on l'a lu tout à l'heure. Il devait avoir entre 17 et 20 ans, semble-t-il, donc à peine sorti de l'adolescence. Il est fils de prêtre. Un prêtre qui s'appelait Hilkia. Et comme tout descendant de prêtre, il avait un destin qui était déjà tout tracé. C'était d'être prêtre lui-même, quand il atteindrait l'âge requis. Et l'âge requis, à l'époque, c'était 30 ans. Pourtant, dans le plan de Dieu, Jérémie ne deviendra pas prêtre. En tout cas, il ne sera pas prêtre dans le temple de l'Éternel. Il ne va pas exercer son sacerdoce de prêtre. Et peut-être, au désespoir de son père, qui voyait déjà son fils le succéder à son ministère. Le ministère de prêtre était un ministère privilégié. Il y a beaucoup de privilèges, et c'était un ministère très estimé par le peuple. Un appel improbable que celui de Jérémie. Il y a d'autres exemples d'appels improbables dans la Bible. Moïse, il avait des difficultés pour parler. Il est devenu le grand homme de Dieu que l'on connaît. David. Le roi David, c'est un jeune berger, le dernier d'une fratrie. Il était peut-être, je ne sais pas, négligé par sa famille, par ses frères. Le destin semblait être lié à des moutons. Mais Dieu l'a appelé pour être le roi d'Israël, pour être le berger d'une nation d'Israël. Excusez du peu, il est devenu roi. Alors j'ai un témoignage à faire, personnellement. Il y a 10 ans de cela, on est en 2019, donc en 2009 encore, avec Nerinso, on n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, nous serions appelés par Dieu pour servir à temps plein en tant que couple pastoral ici à l'église de Palaiseau. Moi, j'étais dans la direction administrative d'une école de commerce. Nerinso est pharmacienne, on avait chacun notre travail. On était installés à Madagascar, on avait... depuis une quinzaine d'années, on avait commencé à construire une maison en prévision de notre retraite. On se voyait déjà sur la terrasse, au coucher du soleil, en sirotant un petit coca peut-être. Et là, en 2010, une épreuve sous la forme d'une maladie grave vient frapper notre foyer. S'ensuit des périodes de doute, des périodes d'angoisse. Et finalement, cette conviction profonde de l'appel de Dieu à le servir d'une manière spéciale. Et quand on a reçu cet appel, cette conviction, voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de vendre toutes nos affaires. On a laissé le chantier de notre maison, qui se résumait alors à des murs de briques et un toit, c'était tout. On a quitté notre vie à Madagascar, on a quitté, j'allais dire, même notre confort, pour répondre à l'appel de Dieu. Et on est venu, c'était en 2012. Alors, il y a certainement d'autres exemples que le nôtre dans des circonstances moins extraordinaires, pas forcément pour travailler à temps plein dans le service, dans le ministère. Dieu nous appelle peut-être à une mission particulière qui n'est pas forcément une mission qui consiste, à être sous les feux des projecteurs, ou une vocation de grands prophètes comme Jérémie, mais peut-être qu'il nous appelle à des choses moins spectaculaires, mais importantes. S'il nous appelle, et c'est une réalité, donc il nous appelle, c'est une affirmation, il nous donne aussi des moyens pour accomplir la mission auquel nous sommes destinés. Et c'est une raison supplémentaire pour nous engager à son service. Dieu, s'il nous appelle, il nous équipe. Alors, aujourd'hui, dans cette salle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est travaillé par un appel, qui ressent au fond de lui-même, hein, ça peut arriver, il y a des personnes qui se disent « Je sens que Dieu m'appelle à faire ça, mais je me juge peut-être complètement incapable de l'accomplir au vu de mes compétences, au vu de ma personnalité. » Peut-être que quelqu'un se sent appelé, mais qu'il pense qu'il n'a pas le profil du job. Trop jeune, ou alors trop vieux, trop timide, pas assez courageux, pas assez formé. Ou peut-être qu'il ne veut pas tout simplement parce que ça va lui faire sortir de son cocon, de sa zone de confort dans laquelle il se sent si bien. Et ça peut tout à fait se comprendre. Et quand Dieu d'ailleurs annonce sa mission de prophète à Jérémie, quelle est sa première réaction? C'est de se sentir incapable de le faire. Il a dit « Hélas, Seigneur, Éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. » C'est peut-être aussi notre sentiment aujourd'hui, quand nous sentons cet appel de Dieu, on se dit peut-être « Hélas, j'aimerais bien, mais... » Et Jérémie dit « Voilà, je suis jeune, je ne maîtrise pas l'art de parler en public, je vais être la risée de tout le monde. » Je vais me planter lamentablement. Personne ne va m'écouter, ni me croire, on va se moquer de moi. Et Dieu aurait pu être irrité à cause de cette réticence. Il aurait pu dire, bon, ben, écoute, puisque tu veux pas, ben, je vais chercher quelqu'un d'autre. Non, il n'en est rien. Avec une patience remarquable, il dit à Jérémie que son inexpérience n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de lui. Tout ce que Jérémie aura à faire, c'est d'obéir, annoncer ce que Dieu ordonne. Point. Le reste, Dieu gère. C'est l'affaire de Dieu. Et d'ailleurs, au verset 9, que va faire l'Éternel? Nous l'avons lu tout à l'heure. Alors l'Éternel me tendit la main, me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter pour ta jeunesse, pour ton inexpérience, pour le fait que tu ne sais pas parler. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Alors Jérémie, il a voulu résister parce qu'il pensait qu'il n'était pas qualifié, mais Dieu, calmement, mais fermement, confirme son choix. Et il fait comprendre que ce choix d'ailleurs est irrésistible, et surtout, donc, il donne, on l'a lu au verset 9 tout à l'heure, il donne des outils à Jérémie, en mettant ses propres paroles dans sa bouche. Et en revenir à Nyarinsu et moi-même, nous pensions que partir là où Dieu nous appelait, parce que nous avons eu la conviction vraiment de partir là où Dieu nous appelait, nous pensions que c'était insurmontable, impossible, au vu de nos ressources financières. Parce qu'à l'époque, nous n'avions vraiment pas assez pour partir. Nous savons qu'il nous appelait pour nous former dans un institut biblique. Mais voilà, nous avions le sentiment qu'à l'époque, que c'était impossible. Mais je peux vous dire, Nyarinsu est là pour en témoigner aussi avec moi, nous avons expérimenté que quand Dieu appelle, Dieu équipe. Quand Dieu appelle, il donne les outils nécessaires pour accomplir la mission. Et pour nous, il l'a fait vraiment d'une manière extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez nous demander en aparté comment ça s'est passé. Mais il nous a vraiment montré que Dieu, c'est celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Il a pourvu sur le plan matériel et il a aussi pourvu à notre intelligence. Parce que quand nous étions étudiants, on a commencé à l'âge de 50 ans, quoi. C'est pas facile de reprendre des études à 50 ans, hein, d'apprendre des versets par cœur, etc. C'était pas facile. Mais là, le Seigneur nous a équipés, et là, on peut encore vraiment en témoigner. Donc c'est un encouragement pour celles et ceux qui sentent un appel, par exemple, à se former, y compris plus de 50 ans. Allez-y, Dieu appelle, Dieu équipe et Dieu aussi accompagne. Il donne l'assurance à Jérémie qu'il va l'accompagner dans tout son ministère. Et pour preuve, il donne une vision, la vision de l'amandier. Vous savez, l'amandier, c'est l'arbre qui fleurissait avant tous les autres arbres. Et l'amandier, en hébreu, a la même assonance, le même son que le participe du verbe veiller. Donc, c'est pour ça qu'il y a un parallèle entre cet amandier-là et Dieu qui dit, voilà, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Et ça, c'est formidable. Il dit, voilà, voici ta mission et je vais veiller à accomplir tout ce que tu diras de ma part. Et effectivement, toutes les prophéties de Jérémie vont se réaliser. À partir de 605 à peu près avant Jésus-Christ, une partie de la population commencera à être déportée. Et le message de Jérémie, justement, ce sera de dire, voilà, ce peuple va venir par le nord, il va vous déporter, il va détruire le pays et il va vous déporter. Ça s'est réalisé. Et en 587, ça a été la ruine totale de Jérusalem. Et la ruine du temple. Mais à partir de 538 à peu près, les rescapés fidèles à Dieu vont revenir de Babylone, où ils étaient déportés, ils vont revenir par vagues dans le pays. Alors, à cause de ces messages, Jérémie va rencontrer vraiment une opposition très très dure. Et son intégrité physique va même être menacée. Des gens voudront le tuer à cause de son message. Parce que le message, j'ouvre une petite parenthèse, le message de Jérémie, c'était voilà, à cause de l'idolâtrie du peuple, eh bien, Dieu va punir le peuple d'Israël. Mais il n'appelait pas à résister, justement. Il appelait à se soumettre aux Babyloniens. Et ça, le peuple d'Israël ne pouvait pas l'accepter. Mais comment un prophète nous appelle-t-il à nous soumettre à l'ennemi? C'est pas normal. Et donc, à cause de ce message-là, il était pourchassé. On voulait le tuer. Il va passer par de grosses périodes d'angoisse, de découragement, de doute. Et à cause de cela, Jérémie va même maudire le jour où il est né. Il l'a dit même deux fois. « Malheur à moi, pourquoi ma mère m'as-tu donc mis au monde ?» Dans le chapitre 15 et dans le chapitre 20, il va redire la même chose. C'est dur pour lui. Mais Dieu, encore une fois, au lieu de réprimander Jérémie, il lui répond sous une forme d'une promesse encore. Il renouvelle sa promesse, il dit « Moi je t'assure, je te délivrerai pour te faire du bien. » Il avait dit déjà au chapitre 1, il le redit au chapitre 15. « Je te délivrerai pour te faire du bien au temps de ton malheur, au temps de ta détresse. Ce sont tes ennemis qui viendront t'implorer. » Donc, malgré l'épreuve qui accable Jérémie, Dieu l'accompagne. Et Dieu veille à ce que ses paroles s'accomplissent. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'état de santé de Nyarinsu, mon épouse. Une acuité visuelle qui a beaucoup baissé depuis... quelques mois et qui la handicape fortement, c'est pas facile au quotidien. C'est pas facile parce qu'on peut pas s'empêcher aussi d'avoir des doutes sur notre mission. Seigneur, si tu nous as appelés, si tu nous as envoyés ici, on a répondu à ton appel, pourquoi ce handicap? Pourquoi cette malvoyance? Et on se met un peu à la place de Jérémie qui a dû poser ce type de questions. Il est arrivé même lui jusqu'à dire, mais pourquoi suis-je venu sur cette terre, carrément? Nous nous sommes persuadés en tout cas que d'une manière ou d'une autre, Dieu va nous accompagner dans notre ministère. Il peut faire aussi des miracles, nous le savons, c'est le Dieu des miracles. Donc, nous nous efforçons par la foi de faire confiance en Dieu. Dieu ne promet pas forcément que celles ou ceux qui l'appellent à le servir auront un ministère de rêve. Une croisière. Qui seront bien épanouis. Sur tous les plans, il y aura des épreuves, des périodes de désert, des périodes de famine. Et on aura même l'impression que parfois Dieu est un peu vicieux, entre guillemets, excusez-moi du terme, pour nous appeler et ensuite nous abandonner en plein chemin. Mais tout cela, chers amis, fait partie du plan divin. Dieu est aux commandes. Il gère. Du début jusqu'à la fin. Et toute chose, dit la parole de Dieu aussi, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu appelle, il nous accompagne. Et c'est une promesse merveilleuse. On sait que La mission à laquelle Dieu nous appelle, c'est une mission pendant laquelle Dieu va nous accompagner. Et c'est une promesse merveilleuse, hein. Dieu ne nous envoie pas au casse-pipe. Même si nous pouvons passer par des moments difficiles. Et vous savez que Dieu, il n'a pas caché, nous l'avons lu tout à l'heure, il n'a pas caché à Jérémie la difficulté de sa mission. Il a dit, n'aie pas peur de ces gens, même s'ils te feront la guerre. Ils vont te faire la guerre. Mais n'aie pas peur, je te délivrerai. Dieu accompagne, mais aussi il protège. Deux fois l'Éternel dit à Jérémie au verset 9 et au verset 19 du chapitre 1, n'aie pas peur de ces gens, je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi, je te délivrerai. Ça, c'est une promesse que Dieu nous donne aussi. Et en écho à ces promesses, l'apôtre Paul avait d'ailleurs dit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si Dieu est avec nous, vous connaissez la suite ? Qui sera contre nous ?» Une manière de dire « Personne ne sera contre nous. » Voilà, j'arrive à la fin de ce message en disant que ce message a un double objectif. D'abord, c'est un encouragement pour les chrétiens à s'engager dans la mission particulière que Dieu a préparée pour eux. Si nous sommes chrétiens, chers amis, Dieu ne veut pas que nous vivions pour nous-mêmes, mais il nous appelle à vivre pour lui, dans la foi en Jésus-Christ, pour l'avancement du royaume de Dieu. Il nous appelle pour servir sa gloire, faire progresser son royaume. Il y a un prédicateur qui avait dit « La plus grande des satisfactions devrait être d'accomplir la mission que Dieu nous confie. » La plus grande des satisfactions devrait être d'accomplir la mission que Dieu nous confie. Alors ma prière ce matin, c'est que le plus grand nombre puisse discerner l'appel de Dieu, l'appel que Dieu leur a adressé particulièrement, et que ceux qui sentent cet appel puissent faire confiance en notre Seigneur. Parce que c'est un Dieu qui appelle tout en connaissant parfaitement nos forces, nos limites, et qui nous promet de nous accompagner. Il appelle les croyants à servir, à le servir d'une manière particulière, parce qu'il nous a dotés, il a doté à chaque chrétien des dons spirituels particuliers qui ne demandent qu'à être exercés pour l'édification de l'Église, même en sachant que la tâche ne sera pas forcément un long fleuve tranquille. Tout comme Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Eh bien, il pourra aussi nous dire, attends-toi à des oppositions, attends-toi à des difficultés, des épreuves. Et le Seigneur Jésus avait lui-même dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais courage, j'ai vaincu le monde. Et en parlant de Jésus, c'est l'exemple même, l'exemple suprême d'engagement. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait être crucifié, torturé. Il savait qu'il allait être rejeté, que son message allait être rejeté. Pas par tous, heureusement. Mais il s'est engagé quand même, sachant cela. Et à un moment donné, il avait des doutes. Dans le jardin de Gethsémané, avant d'être crucifié, il disait, « Seigneur, qu'est-ce qu'il avait dit ? Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe ?» Dans l'Épître aux Hébreux, il est même écrit qu'il avait à grands cris, avec des larmes, demandé que le Seigneur puisse épargner cela. Mais après, il a dit quoi ? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc c'est un encouragement, disais-je, un encouragement de persévérer dans l'engagement, dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Mais c'est aussi un appel ce matin qui s'adresse à toutes celles, tous ceux qui sont aujourd'hui loin de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre situation particulière ce matin, mais peut-être qu'aujourd'hui vous êtes loin de Dieu, vous êtes peut-être assis entre deux chaises, clocher à droite, clocher à gauche. Peut-être que vous avez déjà entendu cet appel de l'Évangile, mais vous êtes resté jusqu'à présent indifférent. Vous savez, le premier appel que Dieu nous envoie en tant qu'être humain, d'une manière globale, c'est l'appel au salut. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'il appelle chacun à lui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, dans cette salle, il y a des personnes qui ont soif de Dieu, mais qui hésitent encore à s'engager. Mais peut-être qu'aujourd'hui aussi, pour ces personnes-là, c'est le jour de la grande décision. du grand pas de foi pour accepter le message de l'Évangile, pour répondre à l'appel de Dieu au salut. Parce que dans sa grâce, Dieu, aujourd'hui, il nous donne encore cette occasion, tant que nous sommes encore vivants, cette occasion d'être sauvés, de saisir ce salut. Et pour cela, il suffit de reconnaître humblement, sincèrement nos fautes devant Dieu. Accepter que Jésus-Christ soit le maître de notre vie. Parce que si nous persistons à rester loin de Dieu, chers amis, nous sommes destinés à la mort éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. À la séparation définitive d'avec Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu nous invite à répondre au message de l'Évangile. Et ce message, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est ce Fils de Dieu qui a donné la vie, sa vie, sur une croix, afin d'épargner de la mort tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme leur Maître. Le message de l'Évangile, c'est le message selon lequel tous ceux qui reconnaissent leur péché, qui acceptent le pardon de Jésus-Christ, auront la vie éternelle. En tout cas, que cette année 2019 soit une année d'engagement pour chacun d'entre nous. Ceux qui sont déjà dans le service, peut-être qui sont avec le Seigneur, peut-être de s'engager encore davantage. Si nous entendons un appel particulier que le Seigneur nous donne, nous envoie, de ne pas hésiter, tout en connaissant les difficultés. Jérémie était averti, ils te feront la guerre. Et Jérémie, voilà, il s'est engagé en connaissance de cause. Peut-être qu'il s'est aperçu que c'était encore plus dur ce qu'il le pensait, et c'est peut-être le cas. Ce sera peut-être le cas pour nous. Moi, il m'arrive de dire, tiens, c'est un peu plus difficile que je ne pensais d'être un pasteur dans une église. Mais la vocation est là, le Seigneur nous accompagne. Et que ce soit aussi un engagement pour celles et ceux qui ont tellement attendu depuis, en disant, voilà, j'y vais pas, non, j'attends, mais jusqu'à quand allons-nous attendre? Nous ne savons pas ce que ce sera le lendemain. Nous ne savons pas si demain nous serons encore vivants. On le suppose, mais on ne sait pas, on n'a pas d'assurance à 100% que demain nous serons encore vivants. Le temps que Dieu nous donne est un temps de grâce qui nous permet encore de nous tourner vers lui si ce n'est pas déjà le cas. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour l'exemple d'engagement de Jérémie qui savait, Seigneur, ce qu'il attendait malgré tout, par obéissance et par amour pour toi. Il s'est engagé pour être... Il a répondu à cette mission d'être prophète des nations. Seigneur, peut-être aussi qu'aujourd'hui, nous entendons ton appel à te servir d'une manière particulière. Que nous puissions, Seigneur, être rassurés, que ton esprit nous rassure et nous dise, voilà, vas-y. Même si les difficultés seront là, je serai là pour t'accompagner. Merci pour ta promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te prie aussi pour celles et ceux qui hésitent aujourd'hui, qui entendent ton appel au salut par Jésus-Christ, mais qui sont encore restés sourds, indifférents, hésitants par rapport à ce message. Que pour cette année 2019, pour ce début, Seigneur, que ce début d'année, Seigneur, soit une année d'engagement aussi pour s'engager, pour te se donner à toi, pour te laisser diriger leur vie. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs aujourd'hui, d'attirer des âmes à toi encore. En ton nom, Jésus. Amen.